vers Non. Où Guillaume a un dialogue fort docte avec Séverin, l'herboriste. Nous reparcourûmes la nef centrale et sortîmes. J'étais encore troublé par la conversation avec Hubertin. « C'est un homme bizarre, dis-je. C'est où il a été, sous de nombreux aspects, un grand homme. Mais précisément pour cela, il est bizarre. Ce sont les hommes petits qui paraissent normaux. Hubertin aurait pu devenir un des hérétiques qu'il a contribué à faire brûler ou un cardinal de la Sainte Église romaine. Il a frôlé l'une ou l'autre perversion. Quand je parle avec Hubertin, j'ai l'impression que l'enfer, c'est le paradis regardé de l'autre côté. » Je ne compris pas ce qu'il voulait dire. « De quel côté ?» demandai-je. « Eh oui, admit Guillaume, il s'agit de savoir s'il y a des parties ou s'il y a un tout. Mais ne m'écoute pas et ne regarde plus ce portail, dit-il en me donnant une légère tape sur la nuque alors que je me retournais, aimanté par les sculptures que j'avais vues à l'entrée. « Pour aujourd'hui, tu as été assez effrayé par tout le monde. » Tandis que je me retournais vers la sortie, je vis devant moi un autre moine. Il pouvait avoir le même âge que Guillaume. Il nous sourit et nous salua avec urbanité. Il dit qu'il se nommait Séverin de Sant Emmerano et qu'il était le père herboriste, qu'il avait charge des bains, de l'hôpital et des potagers et qu'il se mettait à notre service si nous voulions nous mieux orienter dans l'enceinte de l'abbaye. Guillaume le remercia et dit qu'il avait déjà noté, en entrant, le splendide potager qui lui semblait contenir non seulement des herbes comestibles, mais aussi des plantes médicinales, pour autant qu'on pouvait en juger à travers la neige. En été ou au printemps, avec la variété de ses herbes, chacune ornée de ses fleurs, ce jardin chante mieux les louanges du Créateur, dit Séverin en guise d'excuse. Pourtant, même en cette saison, l'œil de l'herboriste voit à travers les branches sèches les plantes qui pousseront et peut te dire que ce jardin est plus riche que ne le fut jamais un herbier et plus bigarré pour superbe qu'en soient ses miniaturisations. Et puis en hiver aussi croissent les bonnes herbes et j'en garde d'autres récoltées et prêtes dans les vases que j'ai au laboratoire. Ainsi, avec les racines de la petite oseille, on soigne les catarrhes et avec une décoction de racines d'altée, on fait des compresses pour les maladies de la peau. Avec la bardane, on cicatrise les eczémas. En triturant et en broyant le rhizome de la bistorte, on soigne les diarrhées et certains maux chez les femmes. Le poivre est un bon digestif. Le pain d'âne est parfait pour la toux. Et nous avons de la bonne gentiane pour digérer, et du glycyrrhiza et du genièvre pour en faire de bonnes infusions. Le sureau, dont l'écorce sert à une décoction pour le foie, la saponaire, dont il faut laisser macérer les racines dans de l'eau froide, pour le catarrhe et la valériane dont vous n'ignorez pas les vertus. Vous avez des herbes d'une grande diversité et propres à différents climats. Comment cela se fait-il? D'un côté, je le dois à la miséricorde du Seigneur qui a situé notre plateau à cheval sur une chaîne de montagnes qui voit la mer au sud et en reçoit les vents chauds, et au nord la montagne la plus haute dont il reçoit les baumes sylvestres. Et d'un autre côté, je le dois à la pratique de l'art, que j'ai indignement acquise par la volonté de mes maîtres. Il est des plantes qui poussent en climat hostile, si tu soignes leur terrain environnant et leur nourriture et leur croissance. « Mais avez-vous aussi des plantes uniquement bonnes à manger ?» demandai-je. « Mon jeune poulain affamé, il n'y a point de plantes bonnes à manger qui ne le soient aussi pour se soigner, si tu les prends dans une juste mesure. Seul l'excès en fait des agents de maladie. Prends les oignons. » Chauds et humides, pris en petite quantité, ils augmentent la puissance du coït, naturellement pour ceux qui n'ont pas prononcé nos vœux. En grande quantité, ils donnent des lourdeurs de tête et il faut les contrecarrer avec du lait et du vinaigre. Excellente raison, ajouta-t-il avec malice, pour qu'un jeune moine en mange toujours avec parcimonie. Mange de l'ail au contraire. Chaud et sec, il est bon contre les poisons, même si certains disent que, à trop en manger le soir, il te donne de mauvais rêves. Beaucoup moins cependant que d'autres herbes qui provoquent aussi de mauvaises visions. « Lesquelles ?» demandai-je. « notre novice veut en savoir trop. Ce sont choses que seul l'herboriste doit savoir. Sinon, n'importe quel inconscient pourrait se promener en administrant des visions, autrement dit, en mentant avec les herbes. « Mais il suffit d'un peu d'ortie, » dit alors Guillaume, « ou de roi-bras ou d'oliribus, et on est protégé contre les visions. J'espère que vous avez ici de ces bonnes herbes. » Séverin regarda le maître à la dérobée. « Tu t'intéresses à l'herboristerie ?»«
Fort peu, » dit modestement Guillaume.
« J'ai eu autrefois entre les mains le Theatrum Sanitatis d'Ubu Kazim de Baldar. Abou Hassan al-Mukhtar ibn Botlan, ou Elou Kassim el-Imitar, comme tu veux. Je me demande si on pourra en trouver un exemplaire ici.
Et des plus beaux, avec moult images de précieuses factures.
Loué soit le ciel. Et le De Virtutibus Herbarum de Platearius.
Celui-là aussi,
et le De Plantis d'Aristote. Je serais heureux d'avoir avec toi quelque honnête entretien sur les herbes.
Moi encore plus que toi, dit Guillaume, mais ne violerons-nous pas la règle du silence qui, me semble-t-il, est en vigueur dans votre ordre?
La règle, dit Séverin, s'est adaptée au cours des siècles aux exigences des différentes communautés. La règle prévoyait la lectio divine, mais non l'étude, et pourtant tu sais combien notre ordre a développé la recherche sur les choses divines et sur les choses humaines. Par ailleurs, la règle prévoit le dortoir commun, mais il est juste parfois, comme chez nous, que les moines aient toute possibilité de réflexion même pendant la nuit. Aussi chacun d'eux a sa propre cellule. La règle est très sévère quant au silence, et chez nous aussi non seulement le moine qui fait des travaux manuels ne doit pas converser avec ses frères, mais aussi celui qui écrit ou qui lit. Pourtant, l'abbaye est au premier chef une communauté d'hommes d'études, et il est souvent utile que les moines échangent les trésors de doctrine qu'ils accumulent. Toute conversation qui concerne nos recherches est jugée légitime et profitable, pourvu qu'elle n'ait pas lieu au réfectoire ou pendant les heures des offices sacrés.
As-tu l'occasion de t'entretenir souvent avec Adelme d'Otrante ? Demanda brusquement Guillaume.
Séverin ne parut pas surpris. « Je vois que l'abbé t'a déjà parlé, » dit-il.
« Non, avec lui, je ne m'entretenais pas souvent. Il passait son temps à enluminer. Je l'ai entendu discuter parfois avec d'autres moines, Venantius de Salvemec ou Jorge de Burgos, sur la nature de son travail. Et puis moi, je ne passe pas mes journées dans le scriptorium, mais dans mon laboratoire. » Et il fit un signe en direction du bâtiment de l'hôpital.
« Je comprends, » dit Guillaume. « Tu ne sais donc pas si Adelme avait eu des visions. »
« Des visions ?»
Comme celles que procurent tes herbes, par exemple.
Séverin se raidit.
J'ai dit que je garde avec grand soin les herbes dangereuses.
Ce n'est pas cela que je veux dire, se hâta de préciser Guillaume. Je parlais de vision en général.
Je ne comprends pas, insista Séverin.
Je pensais qu'un moine qui hante la nuit l'édifice, ou au dire même de l'abbé, peuvent arriver des choses épouvantables à qui y pénètre aux heures interdites. Bien, je disais, je pensais qu'il pouvait avoir eu des visions diaboliques qui l'auraient poussé dans le précipice.
J'ai dit que je ne fréquente pas le scriptorium, sauf quand j'ai besoin de quelques livres, mais d'habitude, j'ai mes herbiers que je conserve dans l'hôpital. Je te l'ai dit, Adelme était très familier de Jorge, de Venantius et, naturellement, de Béranger.
Je saisis moi aussi cette légère hésitation dans la voix de Séverin, et elle n'échappa pas à mon maître.
Béranger ? Et pourquoi naturellement ?
Béranger d'Arundel, l'aide bibliothécaire. Ils avaient le même âge, ils ont été novices ensemble. Il était normal qu'ils eussent matière à discuter. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà donc ce que tu voulais dire, commenta Guillaume.
Et je m'étonnais qu'il n'insistât pas sur ce point. Il changea en effet aussitôt de discours.
« Mais il est sans doute temps que nous entrions dans l'édifice. Tu fais le guide ?»«
Avec plaisir, » dit Séverin un peu trop visiblement soulagé.
Il nous fit longer le potager et nous emmena devant la façade occidentale de l'édifice.
« Du côté du potager, il y a le portail qui donne accès aux cuisines, » dit-il.
« Mais les cuisines occupent seulement la moitié occidentale du premier étage.
Dans la seconde moitié, il y a le réfectoire. » et du côté de la porte méridionale, à laquelle on accède en passant derrière le cœur de l'église, il y a deux autres portails qui mènent et aux cuisines et au réfectoire. Mais entrons donc par ici, parce que des cuisines, nous pourrons ensuite passer sans ressortir dans le réfectoire. Comme j'entrais dans les vastes cuisines, je m'aperçus que l'édifice engendrait de l'intérieur, et sur toute sa hauteur, une cour octogonale. Ainsi que je le compris par la suite, il s'agissait d'une sorte de grand puits, dépourvu d'accès, sur quoi s'ouvraient à chaque étage d'amples verrières comme celles qui donnaient sur l'extérieur. Les cuisines étaient un immense vestibule plein de fumée où déjà de nombreux servants se hâtaient de disposer les nourritures pour le souper. Sur une immense table, deux d'entre eux préparaient un pâté de verdure, orge, avoine et seigle, hachant menus, réfort, cressons, navets et carottes. Tout près, un des cuisiniers avait à peine fini de faire cuire quelques poissons dans un mélange d'eau et de vin et les nappait d'une sauce composée de sauce, persil, thym, ail, poivre et sel. Dans ce qui correspondait à la tour occidentale, s'ouvrait un énorme four à pain qui déjà s'illuminait de flammes rougeâtres. Dans la tour méridionale, une immense cheminée où bouillaient des marmites géantes et tournaient des broches. Par la porte qui donnait sur l'air derrière l'église, entraient à ce moment-là les porchers qui portaient la chair des porcs égorgés. Nous sortîmes sans tarder par cette porte pour nous trouver sur l'air, à l'extrémité orientale du plateau, à l'abri des murailles, où s'élevaient de nombreux bâtiments. Séverin m'expliqua que le premier était l'ensemble des sous, puis venaient les écuries, puis les étables et les poulaillers, et le parc couvert des brebis. Devant les sous, les porchers brassaient dans une grande jarre le sang des porcs à peine égorgés, afin qu'il ne se coagulât pas. Si on le brassait bien et sur le champ, il se conserverait les jours suivants grâce au climat rigoureux et finalement, on en ferait des boudins. Nous rentrâmes dans l'édifice et jetâmes à peine un coup d'œil au réfectoire que nous traversâmes pour nous diriger vers la tour orientale. Des deux tours, dans lesquelles s'étendait le réfectoire, la septentrionale abritait une cheminée, l'autre un escalier à vis qui menait au scriptorium, c'est-à-dire au deuxième étage. C'est d'ici que les moines se rendaient chaque jour au travail, ou bien par deux escaliers en hélice, moins commodes mais bien chauffés, qui montaient derrière la cheminée et le four des cuisines. Guillaume demanda si nous trouverions quelqu'un dans le scriptorium, bien que ce fût dimanche. Séverin sourit et dit que le travail, pour le moine bénédictin, est prière. Le dimanche, les offices duraient plus longtemps, mais les moines travaillant au livre passaient également quelques heures là-haut, d'habitude employés en de fructueux échanges d'observations savantes, conseils, réflexions sur les Écritures saintes.